des deux, Robert Damien, c'est pas moi, hélas. Hélas pour la pensée, hélas pour tout ce que vous allez entendre et ce qu'il va pouvoir vous dire, mais c'est, comment dire, Robert est un complice de l'ENSIB depuis de nombreuses années. Moi, la première fois que je t'ai entendu, c'était pour Horizon 2019, c'est-à-dire donc en 2009, un colloque que nous avions organisé ici, et en particulier sur une proposition que tu nous avais faite d'écrire ce que tu avais appelé le nouvel esprit bibliothécaire, en référence bien entendu à Bachelard. Donc Robert Damien est philosophe, professeur émérite à ce qu'on appelait dans cette université qu'on appelait avant Paris 10, mais qu'on appelle maintenant Paris Ouest Nanterre. Publie beaucoup, et en particulier le dernier texte, ce pourquoi je lui ai demandé de venir, qui s'appelle L'éloge de l'autorité. Je vais l'introduire rapidement. Mais auparavant, dans un texte collectif dirigé par François Dagonier, La philosophie du travail, qui est une partie de... Enfin, du moins, le texte que Robert publie dans cet ouvrage-là est le début, une partie de l'éloge de l'autorité. Vous trouverez les ouvrages de Robert Damien à la bibliothèque de l'école, parce que c'est aussi quelqu'un qui accompagne les bibliothèques depuis fort longtemps, et en particulier, je pense à un texte publié il y a maintenant quelques années, qui s'appelait « Bibliothèque et État », « La grâce de l'auteur », et donc toutes les questions qui tournent autour de l'autorité de l'auteur, de l'autorité de la bibliothèque, de la place de la bibliothèque, et de l'idée que la bibliothèque, selon qu'on est d'une tradition protestante ou catholique, n'est pas pareille, tout ça, ça vient, entre autres, des réflexions, des travaux de Robert Damien. L'autorité, l'éloge de l'autorité, en quoi, justement, ça nous concerne? Ben, précisément, vous qui serez à même d'ici 18 mois pour la plupart et dans quelques mois pour d'autres, d'exercer des fonctions où vous aurez des fonctions d'autorité à mener, cette question est évidemment fondamentale. D'autant que l'autorité, et ça c'est un sujet de discussion que nous aurons après cette intervention, l'autorité aujourd'hui, c'est un peu comme ce que François Diobet avait appelé le déclin de l'institution. Est-ce que on n'est pas aujourd'hui dans une espèce de dilution de cette notion d'autorité? Est-ce que l'autorité n'est pas vue comme de l'autoritarisme? Et donc toutes ces questions qui vont traverser à la fois vos fonctions, mais qui traversent aussi les nôtres ici, à l'ENSIB, vis-à-vis de nos collègues, mais vis-à-vis aussi de vous, est-ce que ces fonctions-là ne sont pas finalement si importantes qu'on doive les interroger aujourd'hui? Là-dessus, je te laisse la parole. Donc une intervention qui prendra le temps qu'elle prendra. Nous avons la nuit devant nous. Et si vous n'êtes pas sage, rappelez-vous ce que Dominique Arrault... Alors Dominique Arrault a parlé hier du lieu des liens, expression de Robert Damien.
Oui.
Mais Philippe Lablanche a parlé du rapport sur les bibliothèques départementales de prêt de Jean-Luc Gauthier-Jantès. Si vous n'êtes pas sage, si vous partez avant la fin de la séance, nous aurons une nuit complète de lecture du rapport de Jean-Luc Gauthier-Jantès de 266 pages sans les annexes, par Jean-Luc Gauthier-Jantès. Et je vous assure que c'est mémorable. Sur ce, Robert, je te laisse la parole sur la présentation, sur ce texte, et ensuite pour les questions à venir.
Je reconnais bien là le caractère un peu vicieux et pervers de Thierry, qui en l'occurrence fait preuve d'une autorité en utilisant une des dimensions de l'autorité, c'est la menace et la capacité de faire peur et par là même de contraindre à l'obéissance parce que on en paye le prix. Bien, ceci dit, d'abord je veux vous saluer et en profiter, les convenants sont du bon. Vous souhaitez une très très bonne année, et particulièrement une année de succès pour que vous puissiez intégrer la fonction que vous souhaitez exercer, à savoir directeur de bibliothèque. Et je suis ce soir particulièrement content, d'abord de devoir remercier Thierry particulièrement pour son invitation, mais aussi Anne-Marie Bertrand, madame la directrice de l'ENSIB, de m'avoir invité, d'autant plus que je suis extrêmement attaché à l'ENSIB. J'y ai beaucoup travaillé et je suis encore, pas pour bien longtemps, président du conseil scientifique de l'ENSIB, et donc je trouve très important le travail qui est fait, aussi bien le travail professionnel que vous mettez en route, que vous apprenez, que le travail de recherche, et surtout aujourd'hui à l'ère du numérique, qui est un petit peu une tarte à la crème, mais qui pour autant contient des enjeux absolument majeurs pour votre métier. Donc je suis très content d'intervenir sur une question qui est l'objet de ma recherche, j'allais dire, depuis le commencement de mon travail philosophique sur l'exercice de l'autorité. Alors, l'autorité en tant que telle, c'est un terme dangereux. Se prétendre philosophe de l'autorité, c'est un petit peu honteux. Pourquoi ? Parce que le terme même d'autorité fait fuir. Il fait fuir, pourquoi ? Parce que toute autorité semble l'exercice d'un autoritarisme. Elle est entourée d'une espèce de spectre fascisant, dictatorial. Et les figures monstrueuses des Césars romains ou des contemporains de Hitler à Staline, en passant par Mao, Bokassa et autres Syriens d'envergure plus modeste, mais néanmoins efficaces dans leur destruction de leur propre peuple. Réfléchir sur l'autorité, c'est extrêmement suspect, car en effet, c'est soit il y a trop d'autorité et donc on cherche à la fuir, soit au contraire, il n'y en a pas assez et on la peine. Donc la question de l'autorité, c'est ou trop ou pas assez. Et donc c'est une question qui a été paradoxalement, et c'est le deuxième point, étonnamment, extrêmement négligée conceptuellement. Vous ouvrez un dictionnaire canonique de philosophie, vous ne trouvez quasiment pas d'entrée au terme autorité. Vous trouvez énormément de réflexions sur le pouvoir, voire même la puissance, mais autorité, c'est une espèce d'angle mort, sous-investi intellectuellement, et pour autant surutilisé. Donc face à la question philosophique de l'autorité, on est à la fois démuni, parce qu'il n'y a rien, hormis une seule référence quasi systématique et louable, celle de Max Weber. Il n'y a quasiment rien, conceptuellement. Et en même temps submergé, parce que la question de l'autorité, vous ne pouvez pas ouvrir une radio, ouvrir une page de journal sans que la question soit posée. On dira d'un tel, il a trop, il en fait trop, il est hyper président, jusqu'à l'autoritarisme quasi dictatorial, et l'autre on dira, mais il n'en a pas. Il n'en a pas, c'est un mou, il écoute le dernier qui a parlé, etc., etc. Donc, démuni et submergé. Submergé d'autant plus que, comme je l'ai dit, la question de l'autorité est évidemment hantée par le problème de la fascination. La fascination qui entraîne une obéissance passive, une espèce de goût positif de la soumission qu'a généré la terreur autoritariste de tel ou tel dictateur. Et donc, mon objet a été quand même d'interroger cet angle mort, d'autant plus que la philosophie politique contemporaine n'aime pas du tout la question de l'autorité. La philosophie politique contemporaine, elle est plus destitutionnelle. L'autorité est très bonne dès lors qu'elle sert à être détruite. On est, j'allais dire, idéologiquement, quasi instinctivement, contre toute autorité. L'autorité est par définition mauvaise. Ou pour le dire autrement, l'autorité se définit par son abus. Toute autorité est menacée d'être abusive. D'où ma question, comment peut-on penser une autorité légitime en contexte démocratique ? Car mon goût, évidemment, n'est pas de défendre nostalgiquement une autorité pyramidale, linéaire, verticale, impliquant des institutions, des incarnations avec un chef suprême incontestable. C'est pas ça du tout ma fascination. Ma fascination, si j'ose dire, c'est une fascination vraiment intellectuelle et pratique de l'exercice même de l'autorité en contexte démocratique. Ce qui veut dire quoi ? En contexte démocratique, et vous allez en faire l'expérience, vous allez être des chefs, vous allez exercer l'autorité. Mais en démocratie, il n'y a pas de chef sans chef. C'est-à-dire que vous avez toujours au-dessus de vous un chef, en-dessus de vous des chefs. Donc comment exercer l'autorité en étant donc, c'est ça la définition démocratique, dans un premier temps, une autorité fondamentalement révocable. L'autorité est par définition contestable, c'est-à-dire soumise à la question. Ce qui implique quoi ? Il n'y a pas d'autorité en contexte démocratique qui ne soit capable à tout moment de rendre raison de ses raisons. C'est-à-dire, vous devez toujours rendre des comptes à ceux que vous dirigez, comme à ceux qui vous dirigent. C'est pas simple. Sous-entendu, nous ne sommes plus dans une autorité linéaire, pyramidale, verticale, exclusivement verticale, même s'il faut de la verticalité, j'y reviendrai. Ce qui veut dire que le problème du questionnement, de la délibération, de la révocation, de la révision des décisions prises par une autorité est constitutif de l'exercice démocratique de l'autorité. Donc, vous voyez, c'est extrêmement lourd comme exercice. Alors, d'où me vient cette question ? Pas de la nostalgie, mais d'une double pratique, ou plutôt d'une double expérience physique et métaphysique, l'une étant comme l'autre. Ce qui est physique pour moi est toujours métaphysique. Première expérience, je ne vais pas rentrer dans les détails anecdotiques ni faire des confidences privées, mais ce qu'on appelle la crise métaphysique de l'adolescence, je l'ai vécu pour des raisons privées en pénétrant dans une bibliothèque. Je savais lire, je n'étais pas complètement analphabète, mais j'étais quasiment illettré. Et je suis, pour des raisons multiples, rentré dans une bibliothèque, dans un coin de Provence, perdu, et j'ai découvert quoi ? Dans une bibliothèque, nous pouvons lire et écouter des voix multiples et diverses, sans qu'aucune soit supérieure à une autre. D'où la question, dans la mesure même où j'ai envie de devenir, qui écouter ? Quelle voix écouter pour être moi-même auteur de moi-même ? Quel auteur puis-je écouter, suivre, pour me découvrir moi-même capable d'être auteur de ma vie ? C'est l'expérience de la pluralité, innombrable, foisonnante, buissonnante, sachant bien qu'il y a un autre modèle d'écoute. Le modèle non pas de la bibliothèque, mais le modèle de la Bible, où il y a un auteur d'un texte qui dit tout d'une seule fois, où tout est dit dans le texte par l'auteur qui a dicté, sous l'inspiration de la grâce, un texte qui raconte la fondation du monde, l'ordonnancement du monde, l'ordre du monde, et qui par là même assigne à chacun sa place. Voilà une expérience absolument fondatrice. D'où comment à l'intérieur de la pluralité entendre une voix à qui obéir, sachant bien que obéir, ça vient de ob audire, écoutez. Pourquoi celle-là et pas une autre? Quel est le principe de sélection, c'est-à-dire d'élection? C'est pourquoi le lecteur dans une bibliothèque est aussi un électeur, puisqu'il choisit une voix dans laquelle il va pouvoir se faire entendre lui-même, où il va entendre une voix qui va le diriger. Vous voyez, première expérience. Deuxième, alors on pourrait développer certains de mes livres qu'évoquait tout à l'heure Thierry, sont partis de cette question, la question de la bibliothèque. Mais il y a une deuxième expérience, alors beaucoup plus triviale, voire ridicule, en ces lieux majestueux de la connaissance et de l'histoire. C'est une expérience pratique que j'ose même pas évoquer, mais qui a été absolument fondatrice pour moi, c'est l'expérience de Rudwiman. Pourquoi ? L'expérience du jeu collectif dans une équipe de sport, qui implique évidemment un usage ordonné, coordonné du corps, en mouvement, dans un ensemble. Expérience donc de joueur. Vous savez, mon grand rêve personnel entre minuit et les couvertures a été d'être un grand joueur international de rugby, et j'ai été malheureusement un professeur d'université. C'est pour moi un échec majeur dans ma vie, agrégé, docteur d'état, tout ce que vous voulez, mais je n'ai pas été un grand joueur de rugby. J'ai découvert très tôt que je n'avais pas les talents de ma liberté. C'est une expérience traumatisante. On a des rêves de devenir, dont on s'imagine avoir la liberté pour les accomplir. Et on découvre qu'on n'en a pas les talents. C'est une blessure narcissique rude. Mais c'est une expérience fondatrice. Comment se situer par rapport aux autres, dans un même mouvement coordonné, face à des adversaires qui s'opposent, qui résistent, qui contrecarrent, qui sont jamais d'accord sur ce que vous voulez faire, qui en plus au rugby, comme vous savez, c'est un jeu d'hommes, n'est-ce pas ? Rude, qui n'a rien à voir avec l'érudition, qui se fait sans douceur, avec une certaine violence physique qui implique une mise en cause de sa représentation symbolique, avec des expériences très humiliantes d'échecs, de blessures. Bien, première expérience fondamentale, tout ça évidemment, c'est, vous allez voir que ça prend des dimensions, conceptuellement, c'est le concept de coopération dynamique dans un mouvement d'ensemble et un mouvement ensemble. Élargissons politiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre social qu'une autorité dirige ? Est-ce l'individu égoïste et intéressé ? Ou est-ce la coopération relationnelle qui constitue le devenir des individus ? Est-ce que c'est le lien, et donc tous les lieux du lien, les institutions du lien, ou est-ce le calcul des utilités privées, des égoïsmes calculateurs, des gains d'utilité ? Vous voyez ? Quand vous faites l'expérience première de la découverte de soi dans le jeu collectif des adversités, que vous découvrez à la fois vos possibles et vos impossibles, vos capacités et vos incapacités, vous faites une expérience majeure, qui sera pour moi doublée d'une deuxième expérience, et alors là, extrêmement riche et importante, c'est que quelquefois vous pouvez n'être pas un très bon joueur. Soyons modestes, j'étais un bon joueur, mais pas un très bon joueur. Vous pouvez faire l'expérience de l'entraîneur, de celui qui dirige l'équipe et qui la fait gagner ou perdre, qui la constitue dans sa composition, qui décide des tactiques comme des stratégies, qui fait réussir et promouvoir tel ou tel joueur par sa capacité de structurer les mouvements d'ensemble, par une capacité stratégique de décider, de choisir. C'est une expérience que j'ai donc fait de longues années et où j'ai découvert aussi une chose très importante. C'est que quand vous dirigez, il y a plusieurs, j'allais dire, opérations de construction d'une équipe, plusieurs rôles, plusieurs ce que j'appelle des réquisites. C'est-à-dire, quand vous êtes en situation de diriger une équipe, quelle que soit l'équipe, hein, en l'occurrence, moi, mon expérience pratique, c'est d'abord l'équipe sportive, mais ensuite, Thierry n'y a pas, mais par mes fonctions à l'université, j'ai dirigé trop et trop longtemps des équipes de chercheurs. À Nanterre, c'est bien connu, la densité de génies au centimètre carré étant exponentielle. Diriger des génies, c'est particulièrement difficile, surtout quand vous avez la conscience de ne pas en être un. Mais vous voyez, ce sont des expériences, hein, vous dirigez 200 chercheurs, 300 chercheurs, ou 10 chercheurs, ou comme aujourd'hui, puisque je m'occupe du LABEX de Nanterre, 500 chercheurs, qui, je vous dis, tous sont persuadés d'être des génies. Comment diriger ? Comment décider ? Comment réviser vos décisions ? J'y reviendrai tout à l'heure. Car évidemment, en contexte démocratique, vous agissez dans l'incertitude. Donc, toute décision est critiquable, donc révisable. Comment réviser sa décision sans être déconsidéré ? Comment revenir en arrière à cause des effets pervers de votre décision, j'y reviendrai, sans être délégitimé ? Oui, aujourd'hui, c'est quasi impossible. Hein. Regardez notre président, mais ça pourrait être un autre. Hein. Dès qu'il rectifie un petit peu le tir, dès qu'il change légèrement de trajectoire, c'est honteux, c'est scandaleux. C'est... Oui, mais il est en train de se gourer. Il est quand même assez intéressant d'avoir un directeur qui s'en rend compte et qui rectifie légèrement. Oui, mais c'est mal vu. Il n'a pas d'autorité. Or, en contexte démocratique, et dans une équipe, vous faites énormément d'erreurs. Vous avez eu une bonne décision pour à peu près 50 mauvaises dans un match. Vous voyez ? Et il faut être constamment en train de réviser, et j'y reviendrai tout à l'heure, retenez ça, en étant capable d'assumer les conséquences de votre décision. Le plus mauvais chef, c'est celui qui n'assume pas les conséquences de son choix. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, vous voyez, expérience de l'entraîneur, du meneur. On me dirait, mais ça, c'est, et pour moi, c'est l'exercice de l'autorité, la plus modeste qui soit. Oui, vous menez une équipe dans la bibliothèque de Cruzy-les-Mépillat, vous avez 10 clampins qui, sous vos ordres, mais vous êtes en exercice d'autorité. Inversement, vous dirigez la grande école de l'ENSIB. C'est plus important, mais c'est exactement ce qui veut dire par là qu'il y a un invariant constitutif de l'exercice. Les mêmes risques, les mêmes périls, les mêmes finalités, les mêmes réquisites. De façon à ne pas être interpellé cette question, que ce soit exercé par une femme ou par un homme, je ne crois pas à la différence des genres dans ce domaine. C'est une thèse, vous allez être contre, je l'assume. Je pense que c'est un invariant anthropologique. Il n'y a pas de société humaine sans exercice de l'autorité. Donc, vous voyez, alors l'exercice d'être un meneur d'équipe, d'être un capitaine d'équipe, d'être un chef d'équipe, un chef de chantier, un chef de groupe, un chef de brigade, un chef de maquis, un chef, etc. Cette question, vraiment, est une question fondamentale. D'autant plus que, vous voyez, a émergé dans mon discours le terme de chef. Il n'y a pas d'autorité sans incarnation d'un corps directeur. il n'y a pas d'autorité sans tête. Et c'est la question du chef. Le chef, hein, c'est la tête. Celui qui prend la tête. Celui qui part en premier. Vous voyez, c'est une question quand vous avez à faire, à choisir, par exemple, un élu, un maire, un président, etc. Moi, instinctivement, je me pose la question, est-ce que je partirais en patrouille avec lui ? Il y a certains, j'ai des doutes, quoi, franchement. Hein, vous voyez, bon, c'est celui qui part en tête qui emmène, hein, qui emmène. Mais ça a un deuxième sens, chef. N'oubliez pas, étymologiquement, ça vient d'achever, d'achever. Le chef, c'est celui qui achève, qui mène à bonne fin. C'est pour ça que c'est un meneur. Il mène au bout. Il commence, il continue, il achève. Voilà les trois dimensions de l'exercice d'une direction. Et vous savez très bien qu'il y en a beaucoup qui commencent. Ah oui, ça tonitruille, ça part, fleuron, fanfare et tout. Dès qu'il y a la moindre résistance, le moindre obstacle, il ne continue pas. Vous savez, le courage. Le courage, c'est pas de commencer. Le courage, c'est de continuer. J'allais presque dire, c'est facile de se jeter à l'eau pour aller sauver. Mais il faut continuer pour attraper le client, le ramener. Si vous êtes pas face à ça, vous êtes morts tous les deux. Hein. Donc, commencer, ce qu'on appelle inaugurer. Il y a augure dans inaugurer. Sous de bonnes augures. Je vous signale que, étymologiquement, qu'est-ce que. De mauvais augures, vous savez ce que. C'est obscène. Obscène, ce qui est de mauvais augures. Ce qui est de mauvais augures. C'est obscène. Donc, inaugurer, commencer quelque chose qui n'existait pas avant. Donc il y a une dimension de création là-dessous, hein. Et qui dit création dit aussi problème de Dieu, parce que la définition chrétienne de la divinité, c'est un Dieu qui est créateur. Ex nihilo, à partir de rien, il fait tout. Il a un petit peu bricolé parce qu'il y a des riens qui émergent, comme disait Paul Valéry. Hein? Dieu a créé le monde à partir de rien. Oui, ça se voit, il y a du rien qui reste. Idem à la création, donc inaugurer. Mais deuxième point, continuer, poursuivre. Sous-entendu, c'est très difficile de continuer et de continuer d'une manière féconde ce qui a été commencé. Pourquoi ? Parce que ça ne se passe jamais comme on a prévu. Parce qu'il y a des effets pervers. Vous avez dit, je vais nommer Ursula ici. Oui, mais Ursula se révèle à l'usage un peu pompette, légèrement tordue, avec des effets complètement contradictoires sur ceux qu'elle dirige. Comment je fais ? Je ne peux pas me renier. C'est moi qui l'ai nommée. Je suis responsable. Elle fait des conneries. C'est moi le responsable. Comment je fais ? Il faut que je la déplace, il faut que je lui explique, il faut que je lui raconte des histoires, il faut que je lui fasse comprendre. Quel boulot ! Ça m'épuise. J'ai d'autres choses à faire. D'autant plus que Polo, je l'ai nommé là, et, idem. Donc, j'ai une équipe de bras cassés. Comment je fais ? Je peux diriger quelque chose. Sachant bien que j'ai commencé. Donc, c'est moi qui donne la finalité. C'est moi qui donne la ligne. Oui, mais la ligne, elle est passablement brisée. Pourtant, je dois continuer. Vous voyez, l'autorité, c'est l'exercice d'une continuité féconde. Malgré les aléas, malgré les impondérables, les imprévus, il faut continuer. Il faut avoir le courage de continuer. Pour aller au bout, pour achever. Car en effet, Vous avez commencé, vous avez continué, mais il faut mettre un terme. C'est le dieu de l'exercice de l'autorité, c'est le dieu Terminus dans la mythologie latine. Le dieu Terminus, celui qui va au terme. Oui, d'ailleurs, hein, pour les femmes qui sont enceintes, on dit qu'elles arrivent à terme pour achever, c'est-à-dire accoucher d'un être complet qu'elle devra, entendez bien, élever. Je vais y venir. Donc vous voyez, le grand danger, la grande hantise d'un chef, et j'y insiste, quel que soit le niveau, que ce soit un chef d'État ou un chef d'équipe de chantier, etc., il doit assumer les conséquences de son choix. Le pire chef, j'y reviens, c'est celui qui dit « Ah mais, oui, j'ai décidé, mais, ah mais moi j'ai pas voulu ça. Mais je me suis engagé dans ce machin, ça se révèle une cata, mais j'y suis pour rien. C'est ceux que j'ai nommés qui font les oies. Mais si c'est vous qui êtes responsable, c'est-à-dire étymologiquement, qui devez en répondre. Qui devez en répondre. Vous voyez ? Assumer les conséquences, c'est vouloir les conséquences de son choix. Ce qui sous-entend que un homme d'autorité est un potentiel de catastrophe ambulant. Mais il faut le savoir. Si vous découvrez, ah, oh, mais j'ai nommé machin et machine, il se révèle complètement désastreux, mais j'y suis pour rien. Mais si, vous y êtes pour tout. Vous voyez ? Et il n'y a rien de pire qu'un chef qui dit, c'est pas moi, c'est lui. Ou c'est le malheur des temps. Vous voyez, je prends une décision, je ne sais pas, je décide de supprimer tel machin, tous les impôts, 150 milliards, allez hop, oh. Oui, ça suraugmente la pauvreté. Je dis, c'est bien connu, c'est les pauvres qui entretiennent les riches, et pas l'inverse. Plus il y a de pauvres, mieux c'est. Parce qu'entre nous, ces pauvres, ils nous emmerdent, ils nous coûtent trop cher. Donc je supprime tout. Ça entraîne des catastrophes sociales. Je dis, mais moi j'ai pas voulu ça. Je n'y suis pour rien. C'est les pauvres, ils ont osé se révolter. Et encore, vous savez, entre nous soit dit, je trouve les pauvres sont d'un calme adamique. Vous voyez ? Donc, l'affrontement avec les conséquences de votre choix, c'est constitutif. Puis, au bout du bout, vous réalisez une finalité. C'est sous-entendu, on peut toujours vous poser la question du pourquoi. Pourquoi vous avez décidé de réorganiser de telle ou telle manière en nommant tel ou tel ? C'est que vous avez une finalité. Vous avez un objectif que vous pouvez exposer publiquement puisque nous sommes en démocratie. C'est pas une affaire comme ça privée, entre toi et moi. C'est une affaire publique. Votre direction, votre exercice d'autorité est un exercice public et même en public, j'y reviendrai. Finalité qui est soumise donc au pourquoi. Vous voyez, une autre petite anecdote. Depuis quelques années, je vais assez régulièrement en Chine, et particulièrement dans les universités de Shanghai et de Pékin, et il y a 7 ou 8 ans, je leur posais la question aux étudiants, je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de révolte en Chine. Vous prétendez le seul et unique pays communiste, et vous êtes d'un capitalisme effréné tel que les capitalistes américains ne l'ont jamais connu. Mais ça ne doit pas tourner dans votre tête. Enfin, comment se fait-il que vous ne vous révoltez pas ? Vous voyez, moi j'étais vraiment un révolutionnaire. Et on me disait, ça ne sert à rien, on se fera écraser. Ben oui, il y avait Tiananmen derrière. Hein. Et puis il y a 3-4 ans, les mêmes, hein, vraiment les mêmes, hein, je leur repose de nouveau la question. Parce que j'avais entendu dire, vous savez qu'en Chine, il y a énormément de révoltes. Écrasé, hein, énormément de révoltes très violentes. Et là, je leur dis, ben dis donc, ça a l'air de bouger. Alors, c'est peut-être Internet, c'est peut-être l'ère numérique, c'est peut-être... Et il me dit, non, c'est pas ça. Oui, la Chine est en train de changer. Parce qu'avant, quand on allait demander un papier, l'administration, l'ordre politique nous disait, c'est comme ça, et pas autrement. Vous n'avez rien à dire. Et c'est comme ça parce que c'est moi qui le dis. C'est moi qui suis le chef. Et maintenant, mes étudiants me disent, maintenant on nous dit, il faut faire comme ça, et bien qu'est-ce qu'on dit? Mais pourquoi? Pourquoi? La question du pourquoi. Oui, c'est ça. En passant, il y a une phrase de Nietzsche à propos des Césars. Nietzsche nous dit, face à César, il n'y a pas de pourquoi. Deuxième petite remarque, si vous avez lu Primo Levi, si c'est un homme, il nous raconte que dans les camps de concentration nazis, il y avait une affiche, ici, il n'y a pas de pourquoi. Donc vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autorité est fondamentalement, en contexte démocratique, hein, soumis à la question du pourquoi, de sa finalité. Et elle doit nécessairement rendre compte de ses raisons. Et c'est très difficile et très important, car il y a un moment tragique, j'espère que j'aurai le temps de venir, tu m'arrêtes, dans tout exercice de l'autorité, ce que j'appelle l'exercice tragique de l'autorité, hanté par le spectre de Machiavel, c'est-à-dire de la raison d'État. J'anticipe un petit peu, parce que je crains de ne pas avoir assez le temps. Tout exercice d'autorité implique, à un moment ou à un autre, d'entrer en mal, nous dit Machiavel. C'est-à-dire d'exercer le droit exorbitant d'être injuste au nom de la justice du tout. Tout chef, quel que soit son niveau, est soumis à cette mélancolie terrible, à ce que Aristote appelait la mélancolie. Vous savez, Aristote définit ça, la maladie de la grandeur. La mélancolie, c'est la maladie de la grandeur. C'est-à-dire, tout exercice d'autorité implique ce moment tragique où vous devez sacrifier une partie du tout au nom du tout. Une personne particulière au nom de la totalité, au nom du nous, au nom de la communauté. Que cette communauté soit représentée par une bibliothèque, une équipe de sport, un chantier, une nation, un pays, il y a un moment tragique. Non mais, c'est pas de tout repos l'exercice de l'autorité. Quelle que soit votre compétence, car vous avez vu que pour l'instant, je n'ai absolument pas parlé de la compétence. Que vous soyez diplômé, surdiplômé, intelligent, cultivé, lettré, ça n'implique pas que vous allez faire un bon chef. Donc vous voyez, ces questions sont quand même des questions lourdes. Alors, tout mon livre essaye de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une autorité légitime dans une société démocratique? D'où, pour répondre à la question, je me suis efforcé de voir comment, d'abord, on avait historiquement, dans la philosophie occidentale, comme je ne prétends pas connaître la philosophie orientale ou la philosophie asiatique, je n'en parle pas. Bien que j'ai quelques connaissances sur ce terrain, pour des raisons là aussi plus privées que publiques, il n'empêche, je ne parle que de la philosophie occidentale. Or, la philosophie occidentale, comme je vous l'ai dit, a évité cette question-là, tout en se la posant. Alors, comment se l'est-elle posée? Eh bien, il faut revenir à l'étymologie de l'autorité. L'autorité, ça n'est ni le pouvoir, potestas, ni la puissance, potentia, c'est l'auctoritas. Je ne rentre pas dans les détails, il y en a beaucoup dans le livre. Auctoritas. Auctoritas vient de augere. Augere, ça veut dire augmenter. L'autorité, c'est ce qui augmente celui sur qui elle s'exerce. L'autorité consiste à faire accroître, à faire devenir plus, devenir meilleur, celui que vous dirigez. Donc toute autorité est un processus dynamique d'augmentation dans l'ordre du devenir, qui permet donc à quelqu'un, par votre médiation, en obéissant à vos ordres, de devenir capable de lui-même. C'est ça l'autorité. L'auctoritas. Car dans auctoritas, il y a augérer, augmenter, accroître, mais ça contient évidemment son inverse. La mauvaise autorité, c'est celle qui diminue, qui amoindrit, qui abaisse, qui réduit, qui met plus bas que terre, qui discrédite celui que vous dirigez. Et il n'y a pas pire autorité que celle qui vous humilie, qui vous réduit, qui vous diminue, qui vous fait perdre votre crédit. Donc, vous voyez, augmenter, c'est aussi prendre le risque de diminuer. Augmenter, élever, faire devenir grand, faire grandir. Quand vous élevez votre enfant, vous le faites grandir. Vous le faites devenir grand en lui faisant se révéler des capacités de devenir ceci ou cela. Nietzsche disait, deviens qui tu es. Ah non, moi j'aimerais bien, l'ennui c'est que je ne sais pas qui je suis. Et je ne le découvre qu'en devenant. Donc moi je dirais, contre Nietzsche, sois ce que tu deviens. Non pas deviens ce que tu es, mais sois ce que tu deviens. Et pour cela, il faut une médiation pour grandir. Une médiation qu'on appelle donc un moteur. Un moteur d'élévation, un pouvoir d'ascension qui vous rend grand. Par des modalités qu'il faudra trouver. C'est un des processus de médiation ascensionnelle. Ce que René Char appelle des ascendants magistraux. Ou il appelle aussi des repères éblouissants. Des loyaux adversaires. Des alliés substantiels. Mais lisez René Char. C'est d'autant plus... J'évoquais tout à l'heure le tragique. Lisez le paragraphe 128 des feuillets d'hypnose, où René Char, comme vous le savez, était un très grand poète surréaliste, mais a été surtout un très grand capitaine de maquis pendant la résistance, où il raconte cette expérience effroyable. Comme je crains de ne plus avoir le temps, je voudrais vous inciter à aller lire ce texte. Il est avec tout son maquis autour de lui, autour d'un village qui est en train d'être pris par les SS. Ces SS amènent un des maquisards de René Char sur la place publique, le torture, le martyrise. Tous les maquisards qui sont plus nombreux que les SS, qui sont armés, qui sont autour du village, disent... à René Char, on y va, il faut aller le sauver. On ne peut pas le faire massacrer sous nos yeux, devant la population, devant le maquis. On va y aller. René Char, capitaine du maquis, décide non, on n'y va pas. Il le laisse massacrer. C'est polaire, hein? C'est une glaciation, c'est terrifiant. Et tout le monde lui dit, mais pourquoi ? Réponse de René Char, parce que ce village, qui est un village comme un autre, est tellement important pour la résistance future que nous devons absolument sauvegarder le village. Si nous intervenons, tout ce que nous avons construit depuis 2 ans est détruit. Au nom du tout, au nom du nous, il laisse son camarade de maquis, torturé et massacré. Ultime phrase de René Char, les maquisards, mes maquisards n'ont rien compris à ma décision de chef de maquis. Mais lui, j'ai vu dans ses yeux de massacré, lui m'a compris. Personnellement, je ne peux pas lire cette page sans frémir. Et on comprend pourquoi Machiavel va dire plus tard, je vous en supplie, n'aspirez jamais à devenir chef. Parce que toujours vous aurez à un moment donné la responsabilité d'un crime d'État au nom de la justice. C'est ça le tragique. Vous voyez ? Donc vous voyez, tous les hommes politiques contemporains qui aspirent à devenir chef d'État, j'ai osé une fois, je ne dirais pas à qui, mais poser ce genre de questions à un grand homme politique, personnellement pour moi le seul homme d'État actuel, Anne-Marie comprend de qui je veux parler, et qui est resté pantois devant la question. Et pourtant, c'est un vrai homme politique. Hein. Bien, donc vous voyez, ces questions sont très lourdes. Quels sont les moteurs ? Or, l'histoire de la philosophie occidentale nous montre qu'il y a eu plusieurs moteurs d'ascension. Il y a eu plusieurs moteurs d'ascendance. Je ne vais pas tous les décortiquer, mais ils sont tous dans le livre. Hein, donc, je vends ma marchandise, hein, je vous incite vivement à aller lire. Je caricature hein, d'une manière honteuse, à coup de serpe, hein, trois modèles majeurs. Le moteur de l'ascension, c'est le cosmos. C'est la grande tradition aristotélicienne. Il y a un ordre dans la nature qui attribue à chacun sa place et qui désigne naturellement les meilleurs, ce qu'on appelle les aristos, les grands, dont la valeur fondamentale est, chez Aristote, la magnanimité. Dans magnanimité, vous entendez bien qu'il y a magnus en latin, ce qui devient grand. Eh bien, les grands magnanimes et prudents, c'est très important aussi, hein, pour mener au terme de la grandeur, hein, c'est ça la prudence. Ce sont ceux qui rayonnent dans l'accomplissement du bien et qui permettent aux autres de rayonner eux-mêmes. Le grand homme magnanime dans l'ordre naturel du cosmos, le grand, le meilleur, c'est celui qui irradie de bien dans l'accomplissement du bien et qui permet aux autres de devenir meilleurs. Voilà, dans le monde grec, pour aller très vite, la nature, l'ordre naturel, le cosmos. Le deuxième modèle, c'est le modèle proprement romain, le modèle de la fides, de la fidélité. Le monde romain, c'est lui qui a conceptualisé et juridicisé la question de l'auctoritas. Vous savez que le monde romain est divisé en trois pouvoirs, si j'ose dire, hein, qui va être synthétisé au prix d'un coup d'État, car toutes les origines des ordres sociaux sont toutes douteuses, quelles qu'elles soient, le plus souvent meurtrières et pleines de trahison. Je dis, nous sommes dans la Ve République, n'allons pas trop voir de près la fondation de la Ve République en 1958. Certes, le général de Gaulle a inventé un type de coup d'État, le coup d'État légitime. Mais il n'y a que lui qui pouvait faire ça. On ne va pas aller voir les origines, quelles qu'elles soient. Vous voyez, Bon, très bien. Donc, dans le monde romain, il y a trois axes, hein, de fondation de l'autorité légitime. La première, c'est l'ordre de la nature, l'ordre des lignées, des hérédités patriciennes. Les grands patresses, les grands pères, pères de la patrie romaine. Ils sont donc très proches de l'origine féconde, de ce qui est commencé. De ceux qui ont commencé, Romus et Romulus, en passant, dites origine douteuse, il y a du meurtre entre les jumeaux, là. Hein. Je veux dire, ils se fracassent gentiment. Et il y en a un qui est un traître, qui est un meurtrier traître. Mais enfin, c'est les grands héritiers, les grandes familles, des lignées. Deuxième grande tradition, c'est la tradition de l'auctoritas du Sénat. Le Sénat, ça vient de Sénex. Les vieux, c'est la tradition des ancêtres, sages, les grands sages. Oui, on trouve ça dans les sociétés dites primitives, hein, le rôle des ancêtres. Très bien. Puis il y en a un troisième qui s'introduit, et là c'est un peu une cata, c'est les grands victorieux, les imperium, ceux qui ont l'imperium de la victoire, les gagnants de la guerre, les grands chefs guerriers, qui ont eux, cette fois, la virtus. Ça a donné la virilité. Ils en ont, comme on dit, quoi. Ils résistent à la mort, ils affrontent la mort au nom du tout. C'est les grands nobles victorieux. Auctoritas, virtus, et nature, naissance. Ça marche pas bien, parce qu'évidemment, les grands victorieux vont s'appeler César, tsar, qui ont des ciseaux, étymologiquement. Ceux qui coupent, ben, généralement les têtes, qui dépassent. Les grands victorieux, les grands virils, les grands guerriers qui sont impérieux. Comment les conjuguer avec les deux autres forces d'autorité? Ça se passe très mal, je passe l'histoire, hein, vous savez bien, la guerre civile du Triumvirat, Lépide, Pompée et Octave. Et le génie du chef romain, c'est Auguste, qui s'appelle Octave, comme tout le monde, hein, mais qui a le génie de s'appeler Augustus. Ben, vous sentez bien que dans Augustus, il y a Auguéré. Car en effet, l'Auguste, empereur, il est empereur parce qu'il est gagnant de la guerre civile. Alors que c'est un être falot, hein. Il passe pas à la télé, lui, c'est... Il est à moitié bègue, il est à moitié chaud, enfin vraiment, pas la classe, hein. Aucun charisme. Il parle mal, il n'est pas très cultivé. Bon, il est un petit peu immigré sur les bords, un peu bronzé, vous voyez. C'est pas très bon pour les Romains, mais il est victorieux. Il raconte ça, hein, dans les Gestae. Il est vainqueur. Puis il est aussi d'une très grande lignée. Et en même temps, il est plutôt jeune. Alors, il invente l'auctoritas comme une synthèse entre le Sénat, la nature et la victoire. Tout en étant fidèle à ses origines nobles, il invente un homme nouveau, qu'est l'homme romain victorieux, viril, sage et compétent, puisqu'il a gagné. Donc vous voyez, le monde romain va osciller entre la sagesse, le savoir et la victoire, la guerre, pour construire une auctoritas où il en reste toujours quelque chose aujourd'hui. Vous voyez, le mois auguste, c'est le mois d'août de la moisson. On a semé, on a cultivé, puis on récolte. C'est le mois auguste du semeur, du moissonneur, du moissonneur. Toutes ces dimensions restent dans la question de l'autorité. Et puis le troisième, et je vais vite, ce pouvoir d'ascension qui promeut le meilleur. Avec la chrétienté, il n'est plus dans la nature et il n'est plus dans l'homme victorieux. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé l'ordre du monde. Il a créé l'homme capable d'être libre, mais manque de peau. Le premier coup où Adam fait usage de sa liberté, il faute. L'inauguration de la liberté humaine est une catastrophe. Il tombe dans les bras, et plus, d'Ève, qui en passant est une tentatrice diabolique. C'est pourquoi toute la tradition chrétienne a un petit peu de mal avec le statut de la femme, puisque c'est la responsable de la faute. Et donc, c'est Adam qui est donc un être, l'homme créé est un être libre, mais faillible. Donc, on ne peut rien fonder sur lui. D'où, comment fonder une nouvelle autorité, cette fois non plus sur la fidélité, non plus sur l'ordre naturel, mais sur ce que les chrétiens vont appeler la foi. La foi. Il faut donc construire des hommes de foi qui sont capables d'élever l'homme au-dessus de la faute. Et l'autorité dans le monde chrétien, elle est détenue par les religieux. Les religieux, et particulièrement, je ne veux pas... Il y a trois chapitres sur saint Augustin et sur saint Thomas, donc vous aurez tous les éclairages quand vous lirez. Mais allons au plus rapide. L'homme qui peut exercer l'autorité ascensionnelle sur les autres hommes est celui donc qui invente l'obéissance, qui est un concept chrétien, qui invente l'obéissance, qui nous oblige sans nous contraindre, qui nous oblige. Dans oblige, il y a obligare, qui nous lie, ligare, qui nous lie. Nous sommes obligés, nous sommes liés, mais sans contrainte. Quel est cet homme qui peut nous élever au-dessus de notre humanité fautive ? Eh bien, c'est un homme qui cesse d'être un homme. C'est le moine, qui est relié exclusivement à Dieu et non pas à l'homme, puisque lui-même, c'est un inhumé vivant, le moine. Il cesse d'être homme pour être inhumé vivant. C'est un suicidé vivant. Le moine. Ben oui, pas de propriété. Pas de famille. Pas de liberté, il fait qu'obéir au pape. Pas de discours, il est silencieux. Mais pourquoi ? Parce que l'homme bavarde, preuve en est. Il cause, c'est tout ce qu'il sait faire. Le moine se tait. Pour écouter quoi ? La seule parole divine de la création, le souffle divin de la création qui nous inspire, qui nous élève après nous avoir humiliés. Mais dites, vous avez peut-être certains d'entre vous, mais pratiquez la messe. Au moment de avant l'élévation du corps du Christ, il y a l'humiliation. Vous baissez la tête. Et donc, vous voyez, le moine a l'autorité de nous élever au-dessus de notre condition humaine pour retrouver notre condition divine. Vous voyez, c'est ça la matrice de l'autorité chrétienne. Par l'intermédiaire de la foi. C'est-à-dire, cette foi, l'autorité n'est pas fondée sur une connaissance de l'ordre naturel, puisqu'il n'y en a plus. Il est déglingué. Depuis les origines, ça se déglingue. C'est le désordre. Parce que l'homme est dominé par le désir, qui est étymologiquement un désastre. Il n'y a que du désordre. Donc, plus d'ordre dans la nature préconstituée. Il faut retrouver l'ordre divin. Nous ne deviendrons des êtres grands ascensionnels qu'en cessant d'être humains, c'est-à-dire âpres au gain, obsédés sexuels, possédés par l'orgueil et fascinés par la langue. Donc, vous voyez, la structure chrétienne de l'autorité est fondée sur ces grands inhumés vivants que sont les moines, les religieux. La chrétienté invente la religion comme matrice de l'autorité. Pour aboutir à quoi ? Ben, il y a une dictée. Vous voyez, dans l'ordre grec comme dans l'ordre romain, il y a des dictateurs humains qui commandent en dictant. C'est le dicéré, le discours qui dicte. Chez les chrétiens, il n'y a plus de dictateur. Il n'y en a plus qu'un seul. Mais sous la dictée de Dieu lui-même, qui par sa grâce a insufflé le souffle créateur aux apôtres des épîtres qui sont nos pères. De quoi ? De l'Église, c'est-à-dire du rassemblement de tous ceux qui croient. À quoi ? À la résurrection d'entre les morts. Qui croient, les croyants chrétiens croient à la mort de la mort. C'est ça être chrétien, c'est ça être croyant dans la foi chrétienne. C'est que nous allons ressusciter d'entre les morts. Ce qui est le sommet de l'élévation et de la fin de la condition humaine, vous en êtes bien d'accord. Car ce qui définit la condition humaine, c'est que c'est le seul être qui sait avec certitude qu'il va mourir. Il ne sait pas quand ni comment, mais ça, contrairement, vous savez bien, l'humour qu'avait le général de Gaulle en disant « N'ayez crainte, je ne vais pas oublier de mourir. » Eh bien, le chrétien, il oublie. Il croit, vous voyez, s'introduit dans l'autorité une dimension de la foi ou de la croyance. C'est une dimension que je n'aurai pas, parce que je vais m'arrêter là maintenant, hein. Très importante. On ne peut s'accroître que si on y croit. Mais on le dit tous les jours. Hein, vous allez vous présenter au concours, aux examens, mais il faut y croire. Vous voyez, la dimension de la croyance pour la croissance est absolument déterminante. Mais pour cela, évidemment, il y a une autre dimension, qui est la dimension proprement républicaine, cette fois la structure républicaine de la République, c'est la dimension de... de la connaissance. De la connaissance comme moteur de la raison. Vous voyez, la nature, la foi, la raison. C'est ça, je vais trop vite, honteusement, c'est ça la matrice des Lumières. La matrice républicaine de la bibliothèque. C'est la matrice de la raison. Le seul lieu de l'universel où tout homme peut accéder, le plus hébété de Basse-Corrèze, peut accéder à la raison, c'est-à-dire à la connaissance du vrai, par l'intermédiaire de l'école. C'est ça, la dimension fondamentale. Sous-entendu, il n'y a pas d'autorité sans capacité de rendre raison de ses raisons, je vous le disais au début. Vous voyez, par exemple, j'ai eu une expérience étonnante. Je suis allé faire une conférence devant des grands managers dans une association. Enfin bon, je ne veux pas donner le nom, mais il y avait des généraux, vous voyez, des grands capitaines d'industrie, enfin, etc. J'expliquais ce que je vous explique. Hein, et il y en a un qui me dit, un directeur d'une très grande entreprise, me dit, oh, ben, vous savez, moi, je donne un ordre et je donne aucune raison. Je dis, mais pourquoi? Bon, parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Vous vous rendez compte? Et je lui dis, mais vous êtes un démocrate, alors absolument parfait, quoi. Ça, on a bien compris que... Et je lui dis, donc vous êtes complètement aristotélicien, vous, ça vient de votre nature. Vous êtes naturellement supérieur, vous avez une autorité naturelle. Il dit, oui, absolument. Non, mais je vous assure, hein. Et donc, non, vous comprenez bien que toute autorité est une autorité devenue. Il n'y a pas d'autorité naturelle, puisqu'il n'y a pas d'ordre de la nature. Donc, toute la question va être, par l'intermédiaire de la raison, comment, dans une structure républicaine, organiser une hiérarchie légitime? Sachant bien que, dans la démocratie, comme son nom l'indique, il n'y a pas d'arché fondatrice. Pour le dire autrement, nous avons de la monarchie, nous avons de l'anarchie, nous avons de l'oligarchie, mais il n'y a pas de démarchie. C'est-à-dire, la démocratie n'a pas d'ordre naturel préconstitué. Il n'y a pas d'arché originel, structurel. La démocratie doit produire historiquement son ordre, qui peut donc être variable, puisqu'il contient son propre désordre. Donc il n'y a pas de hiérarchie légitime. C'est bien, dans hiérarchie, il y a archi. Il y a arché. Et puis il y a hieros, sacré. Donc comment, en démocratie, construire une sacralité légitime? C'est une impossibilité pratique, c'est pourquoi, dites entre nous, mais il ne faut pas le raconter, il y a très peu de philosophes démocrates, hein. J'en connais deux. Tocqueville, mais bon, comme il dit, c'est un démocrate de tête. Sous-entendu, c'est un aristocrate de cœur. Il n'est pas chaud bouillant, vous savez, voilà la démocratie. Il est démocrate, mais il n'est pas chaud bouillant. Le deuxième, bien plus fort, bien plus... C'est Spinoza, qui, dans Traité de l'autorité politique, développe tous les systèmes politiques, arrive à la fin, je veux définir le meilleur régime, la démocratie. Alors on se dit, ah, manque de peau, il commence, il meurt. Donc on ne sait pas exactement quelle est l'analyse spinoziste de la démocratie. Et il y a des kyrielles de spinozistes qui ont essayé d'écrire le chapitre 10. J'en connais beaucoup, et quelqu'un particulièrement, qui a essayé d'écrire le chapitre 10, et qui, si vous le lisez bien, entre les lignes, se trouve quelque part par là. Bien, non, mais sérieusement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hiérarchie naturelle, divine, dans l'ordre démocratique, parce que la démocratie, c'est une cratie. C'est-à-dire, c'est l'exercice d'une force. Comment la légitimité, par quel arché? Il faut, c'est l'ordre démocratique qui se crée lui-même, et par là même se décrit, se détruit historiquement. Donc la question de l'ordre démocratique va se poser autrement. Et je reviens à la question, à la petite remarque originelle. Quelles sont les structures qui permettent à une démocratie de mettre en place une hiérarchie légitime de chefs, sachant que il n'y a que des chefs de chefs? Comment, structurellement, introduire une inégalité légitime? Mais c'est très concret. Comment admettre qu'il y en a un qui est plus payé que l'autre, qui a plus de responsabilités que l'autre? Comment admettre qu'il y en a un qui commande à l'autre quelque chose que cet autre-là n'a pas du tout envie de faire? Et comment peut-il obéir? Oui, qu'est-ce qui est le fondement de la hiérarchie légitime en démocratie? Et quels sont les critères? Quels sont ce que j'appelle les réquisites qui permettent de diquérer, c'est-à-dire de dire, selon une structure de doquérer, c'est-à-dire de documentation, c'est-à-dire de compétence, de façon à pouvoir doquérer, c'est-à-dire diriger? Doukéré, ça donnait douché. Donc, vous voyez, dikere, non, dokere, dikere, dukere. Donc, il faut une hiérarchie dans quoi? Dans trois ordres. Il faut d'abord que ce chef-là, pour qu'il soit légitime, que je lui obéisse, soit ce que j'appelle une intelligence instruite. Il sait de quoi qu'il cause. Vous voyez? Il est documenté. Voilà pourquoi dites votre métier de documentation est structurel dans la démocratie. La documentation, le doquéré. C'est absolument fondamental. Intelligence instruite. Deuxième dimension, qui est aussi la capacité reconnue d'un jugement judicieux. Vous savez, parce qu'il y a des gens très compétents, très documentés, mais qui n'ont aucun jugement. Il faut être judicieux. Oui, un chef, ça doit être instruit, judicieux. Intelligence instruite, jugement judicieux. Mais troisième dimension, qu'il soit aussi conséquent. C'est-à-dire qu'il assume la conséquence perverse, négative de son ordre. Car tout ordre introduit du désordre. Voilà les trois dimensions. Comment les élire? Comment les sélectionner? Selon quels réquisites? Alors dans le livre, je montre qu'il y a quatre réquisites de l'autorité. Je ne vais pas pouvoir les développer car je vous épuise et en plus vous avez envie de manger et non, de vous coucher. Je vous les donne, vous les retrouverez, mais pour être un chef reconnu, car vous voyez bien que la structure de la reconnaissance est décisive, puisque aucun ordre naturel, divin, n'est donné. Et qu'il faut le construire. Il faut être reconnu par celui à qui s'adresse votre autorité. C'est ce que j'appelle, il faut absolument être excentrique et central. C'est-à-dire circuler dans tous les points de vue de ceux que vous dirigez sans appartenir à personne. Il faut être constamment capable de vous mettre à la place d'autrui pour écouter son discours sans le partager, mais pouvoir faire la synthèse et parler le langage du tout. Ce qui implique deuxième dimension, ce que j'appelle la socialité dialogique. C'est-à-dire, l'exercice d'autorité est un exercice relationnel. Un chef qui n'a aucune relation avec ceux qu'il commande ne peut pas être un bon chef. Socialité, mais il ne s'agit pas « Salut Pépère, comment tu vas ?» Socialité dialogique, c'est-à-dire interrogative, pour comprendre les obstacles, les difficultés que rencontre celui que vous dirigez. Socialité dialogique. Troisième dimension, ce que j'appelle la stratégisation rationnelle de l'action. Ça rejoint le problème de la finalité. Vous ne pouvez pas diriger quelqu'un si vous n'avez aucune fin. Votre finalité doit, comme toute stratégie, impliquer des moyens. Et des moyens introduisant une stratégie rationnelle des coûts. Il ne s'agit pas d'avoir une fin irréalisable ou qui coûte la peau des fesses, qui détruit tout votre budget. Vous voyez, stratégie rationnelle de l'action. Enfin, quatrième réquisite, très important, et peut-être pour moi le plus important, ce que j'appelle l'esthétique du redressement. Exercer l'autorité, ça implique une certaine tenue. Il s'agit de se tenir bien, de se tenir droit. La tenue. Il ne s'agit pas d'être toujours en smoking et de faire du théâtre, quoique la théâtralité est constitutive de l'ordre politique. Il s'agit d'avoir de l'allure, il s'agit d'avoir du ton. Le ton, le bon ton, ce qui implique évidemment une éloquence, un usage stylisé du langage. Un chef, il ne parle pas comme un charretier. Vous voyez, je ne veux blesser personne et ne faire aucune polémique, mais le langage de M. Sarkozy l'a beaucoup déconsidéré. Casse-toi, pauvre con, c'est pas le langage d'un chef. C'est le langage du tout venant. C'est le nôtre. Mais nous, on n'est pas des chefs. Et on n'est pas le chef d'État. Vous voyez, le langage du général de Gaulle, un mot du général de Gaulle, vous êtes complètement transi. Parce que c'est le langage du chef. Vous voyez ? Donc, et que vous soyez, il ne s'agit pas pour vous d'être le général de Gaulle, mais quel que soit votre niveau, vous voyez, moi, je vous évoquais le langage d'un directeur de laboratoire. Quand il y a une assemblée générale de laboratoire, vous avez intérêt à tenir les boulons de votre langage. Et puis, il y a toujours un moment où il y a le discours du meneur, qui donne, comme on dit, il nous donne les axes, quoi. Ce qui est possible, pas possible. Ce que ça va coûter, pas coûter. Combien il va distribuer et combien il va pas distribuer. Et il doit le faire dans un langage tenu. D'où naît, évidemment, dans tout exercice d'autorité, il y a une forme de littérature. C'est pourquoi, dans toute autorité, il y a une forme d'auteur. Pour être à la hauteur de la fonction. Mais ça implique aussi un rythme. Voire même pour certains, un certain lyrisme. Vous voyez, quand je dirigeais les équipes de rugby, il y avait toujours un moment de ce qu'on appelle maintenant motivation. Vous voyez, donc un moment d'éloquence rhétorique. Vous voyez, même c'était tous des bras cassés, enfin, vous voyez, tous des ouvriers d'usine, vous voyez, qui n'avaient sans doute jamais lu un livre, enfin, vous voyez. Et pour autant, ce moment-là, mais bien longtemps après, quand je les rencontre, ils me disent, tu sais Robert, quand tu nous parlais, tu m'aurais dit, tu montes au plafond, moi je monte au plafond. Hein. Moment du lyrisme. Et ça, c'est constitutif de l'exercice. Du style, du ton, de la tonalité pour évidemment acquérir quoi ? De la tonicité. Tonalité, tonicité. Voilà les quatre critères. Et évidemment, dans ce cadre-là, vous voyez, il va se dégager des structures politiques, d'exercice social de l'autorité. Je vais tout de suite à la grande question, et qui me vaut beaucoup de critiques d'ailleurs, hein, mais que j'assume pleinement, hein, c'est que, comme je vous l'ai dit, la société démocratique est une société sans arché. Il n'y a pas de démarchie. Il n'y a plus un être, une classe, une position, un diplôme, un titre qui donne le droit de dire le tout sur le tout. Il n'y a plus de Bible. C'est ça la démocratie. Il n'y a pas de Bible. Le dernier exercice tragique de la biblicité, bon, allez, je vais vite, c'est le marxisme. Considérant le Capital comme le texte biblique de l'ordre meilleur, avec une structure de vérité incontestable. Il vaut mieux pas contester. Toute contestation est un crime. Il n'y a pas de contradiction. Bon, vous voyez. Bon, maintenant, on sait de source sûre qu'en démocratie, il n'y a pas de Bible. C'est très important parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs voies. La structure démocratique par excellence, c'est la bibliothèque. Voilà pourquoi c'est si important. La bibliothèque est le métier que vous allez exercer. La structure bibliothécaire de la pluralité des voix autorisées. À l'intérieur, il y a des grands et des petits auteurs, comme il y a des grands et de petits chefs. Mais d'où vient la hiérarchie ? D'où vient la hiérarchisation respectable, légitime, mais par la même contestable ? Eh bien, ma thèse, vous voyez, c'est de dire que la matrice générative de l'autorité en démocratie, c'est la compétition. C'est l'organisation par l'institution des concours. C'est la grande théorie du née par une espèce de mythification de la Chine mandarinane, par l'intermédiaire de Diderot, dont nous fêtons le tricentenaire, théorie des concours. Concours de service public. Voilà pourquoi le droit du service public dans la structure républicaine de la fraternité, car la fraternité c'est ce qui fonde normativement les droits sociaux, les droits de retraite, les droits de pension, les droits maladie, viennent de la structure de la fraternité, mais qui sont dégagés qui dégage une hiérarchie distributive des valeurs par ce qu'on appelle le concours anonyme et public pour dégager le meilleur. Sachant bien qu'il y en a toutes les années et qu'en compétition, le premier de cette année peut très bien être le dernier de demain. Ce qui veut dire que l'ordre hiérarchique d'une démocratie est soumis à la révocation, et je retombe sur mes pattes du début. Nous avons actuellement un président, certains rêvent que la prochaine fois ce sera un autre. Vous voyez, c'est ça la structure. Ce qui veut dire que le sport, loin d'être une anecdote des passions tribales de la populace, que j'ai passionnément partagée, est une structure fondamentale de la démocratie. Là où il n'y a pas d'activité sportive ou de compétition sportive organisée, il n'y a pas démocratie. Ce qui pose de graves problèmes, par exemple, c'est comme ça, comme le montre très bien Max Weber, on a légitimé le marché comme une structure compétitive d'émergence des meilleurs. Donc, vous voyez, alors, à l'intérieur de cette structure sportive, ce qui, moi, me semble prioritaire, c'est la structure d'équipe, c'est le jeu collectif. C'est le jeu, vous voyez, les grands théoriciens des jeux, hein, les mathématiciens, hein, particulièrement en économie, hein, sont très importants. C'est pour ça que je me suis échiné à comprendre le système logique de la mathématique des jeux, par l'intermédiaire de mon grand ami Daniel Parocchia. C'est très important, évidemment, parce que, effectivement, le problème, c'est les structures coopératives. C'est pourquoi, et je terminerai là-dessus, au risque de vous choquer, j'assume pleinement cette plaisanterie grossière qui consiste à dire que je suis le dernier philosophe soviétique, puisque je pense que la structure démocratique par excellence, c'est la structure des conseils, qui est le sens russe de soviet. C'est-à-dire, je pense que nous serons l'alternative au capitalisme individualiste, vous voyez, je donne mes cartes, hein. C'est le socialisme coopératif, c'est pourquoi je suis passionnément intéressé par tous les textes d'un philosophe très important pour moi qui s'appelle Pierre-Joseph Proudhon, qui est le grand théoricien de la structure coopérative relationnelle d'un ordre social légitime, qui est une forme donc de socialisme coopératif. Et maintenant, d'ailleurs, aux États-Unis, vous savez, en France, ça n'intéresse absolument personne, mais je suis sollicité beaucoup par les États-Unis, car les Américains s'intéressent passionnément à l'alternative au marché-providence. On est en train de détruire l'État-providence pour construire le marché-providence. La hiérarchie des meilleurs ne se fait pas par l'État de service public, mais par le marché-providence qui dégage les meilleurs. Meilleure qualité, meilleur prix, etc. Enfin, vous voyez, et eux s'intéressent énormément à la structure coopérative de la création industrielle et de la création des valeurs. Et donc sont très intéressés par Proudhon, et plus encore par ce que je dis sur Proudhon. Je plaisante, mais vous voyez, ce qui me semble vraiment passionnant, donc la structure d'équipe et l'expérience d'équipe, il y a une centaine de pages sur mon expérience rugbystique, dans un livre de philosophie, ça choque énormément, mais je le fais délibérément. Et donc c'est vraiment l'autorité comme dans une structure coopérative qui fait émerger des chefs révocables selon des périodicités organisées par des systèmes d'élections compétitives, et qui par là même doit pour autant toujours respecter les fameux invariants réquisitif de toute autorité, et dans son opération et dans son fonctionnement, pour permettre à chacun de devenir meilleur que soi. Saint Augustin nous avait, par l'intermédiaire de la foi, nous montre que à l'intérieur d'une église, l'homme devient capax dei, capable de Dieu. À l'intérieur d'une structure coopérative d'équipe, l'homme, qu'il soit joueur, acteur, auteur, lecteur, électeur, devient capable de lui-même, dans un mouvement d'ensemble, pour réaliser le meilleur de l'ordre social, c'est-à-dire un ordre social juste, qui affrontent pour autant toujours ce que j'appelle l'heure de vérité, le tragique de tout exercice, qui prend le nom aujourd'hui de raison d'État. Je vous remercie et excusez-moi d'avoir été si long.
On peut prendre un peu de temps pour t'interroger.
Me soumettre à la question.
Te soumettre à la question. Je vais commencer juste sur... Alors, on ne va pas parler du sport et de la démocratie, qui serait un sujet en soi, ni du dernier philosophe soviétique, ni de beaucoup de sujets que tu as pu aborder qui sont fondamentaux. Non, la question qui me vient à l'esprit, qui m'est venue aussi à l'esprit quand j'ai lu l'article, ou plutôt l'interview que tu as donnée à Mediapart, à Antoine Perrault, c'est au fond, 19e, fin 20e siècle, on avait des structures réglées par l'ordre social, contre le capitalisme, contre le marché, bref. Aujourd'hui, on assiste davantage à une espèce d'émiettement. Et comment arriver à faire émerger une structure de groupe et donc une autorité qui soit, pas incontestable, jamais, puisque tu as bien montré qu'au contraire, elle doit l'être et assumer, mais comment arriver à faire émerger cette espèce d'esprit de groupe aujourd'hui dans une société qui nous semble quand même plus éclatée, plus émiettée, plus individualiste qu'elle l'était sans doute, ou du moins qu'on peut imaginer il y a une, je sais pas, fin du XXe siècle.
Oui, c'est-à-dire la question, est-ce que l'avenir d'un ordre social juste se trouve dans les systèmes coopératifs ou pas, et comment les faire émerger ?
Oui.
Oui, bien sûr, c'est une grave question qui se pose d'autant plus tragiquement qu'il n'y a apparemment aucune alternative à l'émergence des meilleurs par le système libéral de dotation des ressources, hein. D'autant plus que l'alternative a été une tragédie. La tragédie communiste, détruit à jamais l'hypothèse positive d'une alternative. Or, alors comment ? D'abord en agissant, bien sûr. Hein, mais je pense que, vous voyez, depuis 40 ans, en philosophie, il s'est passé un grand événement. Quand j'ai fait, moi, mes études de philosophie, les auteurs libéraux, de Tocqueville à Hume, en passant par Locke et d'autres, hein, Sidgwick, enfin bon, les grands théoriciens du libéralisme, jamais entendu parler. Hein. Et depuis 40 ans, ces auteurs-là ont été réexaminés théoriquement de fond en comble, republiés, réédités, retraduits, pour finalement aboutir à ce qui est aujourd'hui l'idéologie dominante de ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique, fondé sur la rationalité du choix intéressé. C'est-à-dire, idéologiquement, nous sommes complètement sous hégémonie libérale. D'autant plus que cette hégémonie est accompagnée d'une autre hégémonie, l'hégémonie numérique. Informatique, je veux dire, le langage informatique est un langage américain, point. Il n'y a pas d'alternative. Vous n'avez aucun ordinateur dont toutes les commandes sont en français. Non, elles sont en américain. Donc, vous voyez, qu'est conjugué à une troisième hégémonie, l'hégémonie capitalistique. Donc, la question que tu me poses, comment ? Ben je crois qu'il faut faire la même chose qu'ont fait les philosophes libéraux. C'est réexaminer les fondements théoriques de la tradition coopérativiste, socialiste, non marxiste. Puisque la tradition marxiste est pour l'instant, dans 50 ans, ça va renaître, parce que Marx est un génie théorique absolu. Comme ça, il y en a une dizaine. Hein, Platon, Aristote, puis on va à Leibniz, Descartes, vous voyez, il y a une petite dizaine, quoi. Voilà. Marx fait partie d'eux. Bien qu'il ait beaucoup pris à Hegel, bon, donc ça reviendra. Je veux dire, je ne suis pas un anti-marxiste frénétique du tout, c'est pas ça, hein. Mais je pense que là, c'est le moment, d'abord, ouais, tu me dis comment. Je pense une urgence, qui a l'air un petit peu lointaine, je pense, c'est réinvestir la théorie. C'est-à-dire les textes de bibliothèque. Et vous voyez, bon, vous aurez l'occasion, enfin moi je fréquente régulièrement la BNF, je suis extrêmement frappé du nombre d'étudiants qui demandent les textes du 19e, du 19e même républicain, républicain social, républicain socialiste, socialiste, etc., coopératif, etc. Il y a une relecture de tous ces textes-là et une tentative de republication, particulièrement en France, bien sûr, mais chez les Italiens et chez les Américains. Donc, tu me dis comment ? Je pense, c'est à loin d'échéance, parce que, je veux dire, le rapport de force est tellement défavorable. Je pense une des urgences, c'est une urgence culturelle de réexamen théorique des grandes questions de la coopération. Et particulièrement en économie. Ainsi, par exemple, moi, j'ai un de mes thésards, Christophe Richard, qui est par ailleurs un économiste de très haut niveau, puisqu'il a lui-même son entreprise, enfin c'est un consultant économique, hein, c'est pas, c'est quasiment un trader, hein, donc je lui dis d'ailleurs que c'est un voleur, enfin bon, enfin peu importe. Je dis, il est vraiment complètement dans le capitalisme, hein, vraiment. Et il fait sa thèse sur la coopération. Il inverse complètement la thèse, hein, où il montre, c'est la relation qui fait l'individu. C'est pas l'individu qui fait les relations. Donc il inverse complètement, il est en plein dans mon schéma. Donc dans les structures coopératives. Et ensuite, ben, je crois qu'il faut promouvoir ben, ce qu'on appelle, on a l'air de l'ignorer, mais 35% de la richesse du PIB est produit par les structures coopératives. En France. L'économie sociale est un des grands pans et génératrice d'emplois. Selon un système très particulier de hiérarchie, comme vous le savez. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, or, ça n'intéresse personne. Quoi, hein. Là, le journaliste lambda, il dit que c'est de la vieillerie, hein, les structures coopératives. Voyez, bah. Mais non. Et des très grandes entreprises, comme le système U, comme, hein, que vous allez faire vos marchés là-dessus, ou, ouais, c'est des structures coopératives. De même, vous voyez, on peut aller très loin. Moi, je suis passionné par l'histoire de l'agriculture, mais qu'est-ce qui a sauvé l'agriculture française, si ce n'est les coopératives ? De propriétaires, mais des structures. Alors, il y a aussi une origine patronale des coopératives. Vous voyez, enfin, donc il faudrait réexaminer toute cette ce qu'on appelle l'autre économie, hein, qui a été analysée aussi, bon, avec lequel je ne suis pas toujours d'accord, mais par Jean-Louis Lavigne du CNAM, enfin vous voyez, tous ces gens-là, qui ont réexaminé les structures coopératives, d'autant plus que, évidemment, les structures de coopération sont pour moi des structures d'autorité légitime. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chef. Non, il y a besoin d'incarnation. Avec un ton, un style, etc., un physique, une stratégie, du relationnel, de l'excentricité centrale, vous voyez, tout ce que je vous ai dit, mais dans des structures coopératives, c'est-à-dire du questionnement perpétuel. Hein. Vous voyez, c'est pourquoi d'ailleurs, moi je pense que le fondement de la démocratie, c'est la désocratie. C'est-à-dire, c'est Socrate. Socrate, c'est la question. Voilà pourquoi il était si enquiquinant et que le peuple l'aime pas, car vous savez, je parlais de la philosophie occidentale, elle est dominée par deux figures, Socrate et Jésus, qui ont tous été exécutés par le peuple. Hein. Donc vous comprenez bien que le philosophe et la démocratie, il n'est pas chaud. Hein. Pourquoi ? Parce que le philosophe, il se fait brûler par le peuple. C'est très provocateur. Hein. Mais quel est l'art de Socrate, si ce n'est l'art de la question ? Que ce soit Ménon, l'esclave, ou la caisse, le général, il lui pose la question, mais pourquoi ? Rendez compte. Soyez cohérent avec vous-même pour construire de la cohésion. Donc, pour répondre à ta question, je dirais, mais c'est peut-être la déformation du métier, hein, réexaminer théoriquement les fondements philosophiques du socialisme coopératif, particulièrement au 19e et au début du 20e. Et deuxième point, investir dans les structures coopératives de production des richesses, pas de distribution, de production des richesses. Ça rejoint évidemment le grand thème du nous, hein, et c'est pour ça que pour moi Proudhon est le génie absolu, c'est le premier théoricien de la plus-value, c'est-à-dire il nous montre quoi ? Que le nous, c'est le nous qui est producteur de la plus-value. C'est pas l'individu capitaliste qui a investi. C'est le nous, c'est le groupe, c'est le système des rapports de production entre les êtres qui crée du plus, du surplus, de la plus-value. C'est pourquoi il faut relire les grands textes de Proudhon sur la propriété. Qu'est-ce que la propriété ? Je vous indique, je vends encore ma marchandise que j'ai rééditée dans le livre de poche l'année dernière. Bien. Je n'ai pas répondu vraiment à tes questions, non, mais je te donne un peu les...
Oui, des pistes.
Oui, il y a la jeune dame là-bas qui...
Oui.
Et ensuite, je voulais vous poser la question du charisme. Qu'est-ce qui fait qu'on suit quelqu'un plutôt qu'un autre ? On a tous connu, je pense, au cours de notre vie, des gens qui étaient de parfaits imbéciles, qui n'étaient pas instruits, qui ne semblaient ne rien avoir trouvé, et pourtant les gens le suivaient. Comment ça se fait ?
Vous poussez le bouchon, quand même. Hein. Je veux dire, un homme qui a du charisme en étant... bête comme ses pieds, moche comme tout, et incapable de parler, c'est un peu dur. Mais quand même, la question est très forte. Hein. Première question, peut-on passer en force ? Oui, si vous avez le rapport de force pour vous. C'est-à-dire, si vous avez une finalité dont, pour laquelle vous vous donnez les moyens. Bien sûr qu'il faut, vous voyez, je vais même jusqu'au bout, il faut quelquefois faire des coups d'État. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit des coups d'État légitimes. Oui. Et qu'ils ne soient pas des crimes. Donc, oui, bien sûr, mais c'est quoi ? Ben justement, c'est là que l'intelligence instruite, le jugement judicieux, commande. Oui, bien sûr, quelquefois, il faut savoir user de la force, d'autant plus que, en structure démocratique, il y a un droit de la force. Il y a un droit de l'usage des forces de l'ordre. Vous voyez, j'évoquais tout à l'heure le coup d'État légitime du général de Gaulle en 1958. La communauté nationale étant en danger, de Gaulle, qui est rien, si ce n'est une légende, prend le pouvoir avec l'aide, allez, allons-y, des parachutistes néo-fascistes, enfin bon. Il prend le pouvoir et, d'une certaine manière, ça apaise apparemment, sachant bien que ceux qui l'ont soutenu, il va les trahir au nom de la communauté nationale. Et il va tirer un train sans frémir sur les pieds noirs et sur les harkis. C'est d'une inhumanité, mais c'est légitime, car la communauté nationale est en train d'être menacée d'une guerre civile terrible. Vous voyez ? Donc là, il fait l'usage d'une force, l'usage même de la traîtrise, c'est pourquoi, vous savez, les pieds noirs vouent une haine inextinguible à De Gaulle. Et ils ont même tout fait pour le dégommer. Pour dégommer ce qu'ils appelaient la Grande Zoa. Oui, les attentats, etc., etc. Donc oui, il y a un usage. Donc vous voyez, oui, bien sûr, hein, mais c'est soumis évidemment à votre capacité d'assumer les conséquences de votre choix. Et il faut légitimer cet usage de la force. Bien sûr que exercer démocratiquement l'autorité ne consiste pas à parler, à discuter, il s'agit d'agir, de trancher, il s'agit toujours de décider, étymologiquement, décider, c'est couper. Hein.
Donc au final, ce qui donne la légitimité, finalement, c'est le regard postérieur de l'action sur
les pays. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, la dimension du succès est fondamentale. Hein. C'est... Le problème après, c'est pas tellement le vrai problème. Par exemple, le vrai problème de De Gaulle, c'est pas tellement le succès, c'est la succession. Ça, vous voyez, hein, c'est la transmission du pouvoir, la continuité du pouvoir, là encore. Hein. Alors, quant au charisme, hein, bon, j'ai essayé de définir les conditions de l'exercice charismatique. Le charisme, hein, étymologiquement, c'est le charme. Hein. C'est le charme. Le charme qui nous fait chanter, mais qui nous fait aussi tomber. Hein. Obscur. Des arts chus. Hein. Le poème de Mallarmé, que je ne vais pas vous réciter. Mais... donc c'est un charme. Hein. Alors, pour autant, il y a de la littérature là-dessus. Hein. Ce n'est pas seulement comme ça un mystère. Ou de la magie. Ce qu'on nous fait croire. Non, il y a des conditions d'exercice du charisme. Ça vient de très loin. Le premier théoricien du charisme, bah, c'est le texte biblique du verset 15 de l'Ecclésiaste. Les dons de l'esprit. Le charisme, c'est un don de l'esprit. Et il y en a sept. Donc, c'est-à-dire comment capter, je simplifie, hein, quelle est la question, comment capter le souffle divin de la création. C'est ça le charisme. Comment parler le langage de Dieu? Comment parler le langage de Dieu? Et donc, évidemment, il y a des conditions pour être assuré que tel ou tel homme parle le langage de Dieu, ben, il y a la consécration. Donc, il y a tous des processus de dans l'ordre chrétien. Alors, dans l'ordre laïque, comment se légitime cette autorité charismatique? Ben, c'est tout le processus de reconnaissance. C'est le grand thème hegelien de la reconnaissance, dans la réciprocité, sans susciter et être dominé par la fascination, le fascinus, qui suscite effectivement l'effroi d'un prince pornocrate, comme je l'appelle. Hein. Mais donc, vous voyez, bien sûr que dans l'ordre légitime d'une équipe, il y a des êtres charismatiques auxquels on croit parce qu'ils nous font accroître et qui nous font devenir meilleurs. Alors quel est le critère? Ben, si on devient moins bon, plus bête qu'avant, impuissant, et qu'on détruit la communauté, ben, il n'y a pas de charisme. Si cet être charismatique m'augmente, me donne à croire dans ma croissance, et me fait effectivement réaliser une progression, une élévation, il y a du charisme. Donc oui, le charisme n'est pas assimilable au mystère d'une fascination. C'est une impuissance de la pensée que de le croire.
Mais il y a aussi une sorte de charisme qui entraîne tellement les gens qu'ils ne les aient pas aussi à les voyer.
Bien sûr, mais dans ce cas, c'est de la fascination. C'est pas un charisme dans l'ordre démocratique. Bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a une acceptation passive, sans critique, sans question, on n'est plus en démocratie. Vous voyez, je pense qu'il y a un charisme démocratique, avec des conditions, les fameux quatre réquisites, les trois dimensions, les trois exigences, etc., etc. Le charisme en démocratie est soumis à un contrôle. Ben, je ne sais pas, le charisme du général de Gaulle a été soumis, hein, alors que justement, on le suspectait, hein, d'être un néofasciste, d'obédience maurassienne. Ben, il a montré qu'il était soumis à la sanction démocratique. Dès qu'il était battu, il s'est retiré. Et de même, il a toujours soumis, vous voyez, ce charisme-là soumet toujours ses raisons à la raison. Sinon, on est dans la fascination, dans le dictateur, on n'est plus dans la magistralité. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui.
Je suis extrêmement étonné et admiratif par le fait que vous avez réussi à parler pendant 2 heures sur le comité en n'employant pas un certain terme probablement trop lié à la philosophie comme occidentale, qui est le mot savoir.
Non, là vous êtes excessif. J'ai dit que la maîtresse républicaine, c'était la raison. Partant, c'est la connaissance et le savoir, bien sûr. Hein. Je récuse votre question.
Tu assumes.
Non, mais allez-y, je plaisante.
Je m'étonnais.
Vous avez raison, j'ai pas assez insisté, mais j'ai été pris par...
Le fait d'une distraction.
Non. Indiscutablement, quand je dis que c'est la raison, l'école, la République, sous-entendu le savoir et le statut même du savoir, qui est un savoir questionné, d'un savoir toujours interrogé, d'un savoir qui connaît ses limites. Oui. Sachant bien qu'il y a une matrice aussi du savoir qui a été extrêmement contestée à juste titre, c'est la fameuse matrice du logos, tyrannie du logos, disaient certains, c'est-à-dire platonicienne. C'est-à-dire l'idée que pour diriger un ordre social, il faut qu'il y ait un être, qu'on appelle le philosophe roi, qui ait le savoir absolu, de l'absolu. Donc quand on est en structure républicaine, on sait qu'il n'y a pas de savoir absolu. Il y a des savoirs limités, régionaux, mais qui progressent. Oui, c'est pourquoi mon grand philosophe de référence, c'est Bachelard. Le pluralisme cohérent des raisons. Oui, c'est une épistémologie. Donc, je n'ai pas assez insisté, mais croyez bien que c'est pas par ignorance de cette question. Au contraire, je pense que le rationalisme est absolument constitutif. Ben, quand je dis accéder aux raisons des raisons, le présupposé, c'est le rationalisme. Hein. Le rationaliste qui peut comprendre l'irrationnel, d'ailleurs. Hein. Qui n'est pas antithétique d'une connaissance des passions. Hein. Vous voyez, je vous rassure. Mène à bonne fin, hein, mène à bonne fin, même
et
à terme.
Le chef, il doit aussi répondre, et je me demande si c'est possible de à la fois continuer et répondre.
Oui, bien sûr. Hein.
D'une certaine manière, on peut être interpellé quand on est en situation de responsabilité. C'est un grand classique, le chef n'explique jamais assez, etc. Donc on peut passer son temps à expliquer, mais au bout d'un moment, il faut aussi suspendre.
Il y a un moment, mais oui, mais les deux ne sont pas incompatibles. Il y a un temps d'exposer, il faut d'ailleurs choisir le bon moment de l'exposer, des raisons, de réponse aux questions. Il y a un temps des questions, puis il y a un moment où les questions ne se posent plus. Et il y a un moment où vous ne parlez plus, vous agissez, faites agir. Donc vous voyez, il y a un rythme dans l'exercice de l'autorité. Il y a des moments. Hein. Et évidemment que les erreurs consistent à faire trop durer le temps de la discussion. Oui, c'est la réunionnite perpétuelle. Enfin, nous, on connaît ça. Nous, on est quasiment experts dans les universités. Hein, par exemple, mais moi, je vous avez bien compris, je suis quasi fasciste. Hein, quand il y a une réunion, je dis une réunion ne dure pas plus de 2 heures. Au bout de 2 heures, on arrête. Quoi qu'on ait, on arrête. Ça a des effets induits. Hein. Il faut qu'on trouve la solution. Donc oui, il y a un rythme à imposer. Il y a des moments à imposer. Mais on ne discute pas sans arrêt. De même, il y en a qui décident sans arrêt. Je veux dire, il y en a qui... C'est des mitraillettes, mais ils décident rien du tout. Oui, il y a le moment de la décision. Oui, donc, il s'agit aussi de structurer d'une manière quasi rythmique l'exercice de votre autorité. Tempo, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Absolument. Non, mais j'ai eu tort, mais croyez bien que c'était sous-entendu, si j'ose dire. Hein. Il y a un temps pour tout, quoi. Voilà. D'autant plus que se raccroche une autre dimension temporelle très importante, c'est le kéros. Le kéros, c'est le moment opportun de dire ou de faire ou d'agir tel ou tel phénomène, le kéros, hein, le moment opportun. Dites ce qui est important, il faut saisir. Vous savez bien que l'occasion, dit la mythologie grecque, est chauve. Il faut saisir par les cheveux. Oui, l'ennui, c'est qu'elle n'a pas de cheveux. Hein, et que c'est dur à saisir l'occasion. Hein. Et des coups, on a saisi une, oui, mais au détriment d'en avoir détruit 100. Quoi, hein. Oui, saisir l'occasion. Mais c'est dans le jeu comme dans la porte qui s'ouvre, paf, il faut rentrer dedans. Vous voyez, d'autant plus qu'il ne suffit pas de saisir. Il y a, dans opportunité, n'oubliez pas, il y a port. C'est-à-dire mener à bon port. Opportunité, c'est mener à bon port. Saisir l'occasion, puis l'amener au bout. Hein, à bonne fin. Donc, vous voyez, dans le tempo, il y a aussi le sens de l'occasion. Paf, saisir. Et il y en a qui l'ont et il y en a qui l'ont pas. Hein. Comment? Alors, justement, peut-on l'acquérir? Ben c'est là qu'il faut avoir un très grand humus, de, paradoxalement, de la tradition. C'est-à-dire des repères historiques. Vous savez, ben Napoléon qui a eu... à Austerlitz, un sens aigu des opportunités, connaissait, il s'était fait une espèce de bibliothèque des batailles antérieures, connaissait tout le cheminement du commandement, des batailles antérieures. Idem Nelson, enfin vous voyez, vous lisez ça dans Clausewitz, tout simplement, hein. C'est pas moi qui invente, hein, vraiment, tout est dans Clausewitz. Hein. Donc vous voyez, tempo et kéros. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut, on dit, oh, c'est le coup de peau, c'est le... Non, il faut avoir une grande assise culturelle, bien au contraire, pour pouvoir bouger au bon moment, saisir le bon moment. Et ça, ça fait partie de l'exercice d'autorité, bien sûr. J'ai répondu à votre question. Vous vouliez revenir, votre voisine, je ne sais plus.
Il nous reste, pour maintenir le tempo, 5 minutes. C'est ça. Et les 2 heures des réunions. Oui. Non, oui. Non, oui, vous.
Bien sûr.
Merci.
Bien sûr.
Merci de le rappeler.
Merci de la rappeler. Oui.
Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez du départ de la BPI ?
Là, je ne vois pas très bien en quoi c'est à rapporter à la structure coopérative, mais je suis un peu désolé parce que Patrick est un grand ami que j'aime beaucoup. J'avoue que j'ai été un petit peu surpris personnellement, mais il a sûrement de très bonnes raisons, et le jour venu, il en rendra compte, s'il doit en rendre compte. Il rendra compte, il rendra raison de ses raisons, qui sont sûrement bonnes. Je lui fais toute confiance, mais je suis un petit peu navré de son départ. D'abord parce qu'on ne pourra plus continuer à dialoguer avec, ardeur, puisqu'on était très souvent en désaccord, hein, mais... Je pense que, enfin je le dis tout de cru, je pense que pour le métier de bibliothécaire, c'est une perte, je crois, importante, mais il a beaucoup écrit et j'espère qu'il va publier un petit peu, non pas ses mémoires, c'est pas ça, mais ses réflexions, particulièrement sur la bibliothèque à l'ordre numérique. Mais je n'en sais pas plus, du tout. Il m'a fait aucune confidence, je n'en sais pas plus.
Il nous reste 30 secondes.
Oui.
Vous dites qu'il y a un courage à continuer. Vous dites qu'il faut confier les projets, les mener à bien, les impliquer. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un courage à arrêter des projets?
Absolument. Tout à fait. Il y a un courage à les réviser et parfois à les révoquer. C'est-à-dire reconnaître qu'on s'est trompé. Ce qui est extrêmement difficile, mais qui est impérieux. Oui, bien sûr, il faut reconnaître ces erreurs, et particulièrement en démocratie, sans que ça coûte la place. Eh ben, faites du mieux que vous pouvez. Non mais c'est un... Vous voyez, voilà typiquement une des exigences qu'il faut assumer. De même, ben, mais ça se traduit très bien, dans une structure démocratique élective, ben, vous devez assumer que vous avez été battu aux élections. Alors que vous avez été très bon, vous êtes sans doute le meilleur, le plus intelligent, le plus instruit. Il n'empêche que. Oui. Et le peuple en démocratie a toujours raison. Je dis bien le peuple, je ne dis pas l'opinion publique. car je terminerai sur cette provocation, il n'y a pas pire pour moi démocratie que la démocratie actuelle qu'on appelle la démocratie d'opinion. Je ne confonds pas l'opinion publique qui est fabriquée, qui est construite par des rapports de force idéologiques, et l'élection. C'est tout à fait autre chose. Je m'excuse d'avoir été si long
pas du tout.
Vous avoir un petit peu frustré de la parole, mais je vous remercie de m'avoir quand même écouté.
Je te remercie d'être venu. Juste pour vous rassurer, une fois que vous aurez lu les textes théoriques, vous aurez, grâce à Marie-France Perlon, quelques outils qui vous permettront à la fois de mesurer le temps, de pouvoir renoncer, de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir, au cours de la formation, vous aurez des outils beaucoup plus pratiques que ces outils, que ces réflexions théoriques que Robert a bien voulu, dont Robert a bien voulu nous livrer les prémices, puisque d'une part, à la fois, le livre existe, et d'autre part, le suivant portera sur les conseils.
Sur les conseils, absolument.
Puisque c'est le dernier philosophe soviétique.
Très bien.
Merci.
Merci.
Et bonne soirée.